Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition spéciale donc sur France Culture consacrée aux attentats parisiens d'hier soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 127 personnes sont mortes dans la série d'attaques quasi simultanées menées hier dans la capitale et à proximité du Stade de France. Des centaines de personnes blessées. 8 assaillants sont morts. Dans les minutes qui ont suivi ces attentats, l'état d'urgence a été décrété. Réponse immédiate des autorités pour une situation en tout point exceptionnelle. Alors ce midi, nous avons essayé de réfléchir au choc politique provoqué par ce nouveau traumatisme auquel la France est confrontée. Ce soir, nous allons nous pencher sur le choc sécuritaire, le cadre légal des mesures prises, leur signification et peut-être aussi leurs limites. Alors à cette heure-ci, d'habitude, vous avez rendez-vous avec Antoine Garapon pour Le Monde Selon. Antoine Garapon qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Antoine. Je rappelle, vous êtes magistrat, donc Le Monde Selon vous, c'est tous les samedis à cette heure-ci. Vous allez nous accompagner d'ailleurs tout au long de cette édition spéciale. Mais d'abord, je ne sais pas si on peut parler de chronique, mais en tout cas, votre réflexion quelques heures donc après cette série d'attaques.
Merci Hervé. Sommes-nous en guerre ? Le terme de guerre n'a cessé de hanter les commentaires des terribles massacres que notre pays a connus cette nuit. Comment qualifier les images que nous avons vues en boucle depuis quelques heures autrement que comme scènes de guerre ? Le sang, les cris de douleur, le crépitement des mitraillettes, l'évacuation des blessés, la débauche de violence, l'envahissement de notre espace quotidien, de ces rues de Paris qu'on aime tant, la disparition subite de l'insouciance, tout cela donnait l'impression d'un champ de bataille et nous propulsait dans le temps de la guerre. Cette fois-ci, a-t-on entendu ici ou là, ça y est, nous sommes entrés en guerre. Méfions-nous pourtant de ne pas utiliser trop rapidement et trop inconsidérément du terme de guerre. La guerre, c'est autre chose. La guerre, c'est la concentration de forces organisées selon des règles acceptées d'un commun accord pour comparer sa puissance. L'homogénéité des parties belligérantes est une des conditions de la guerre. Tous les coups ne sont pas permis car ils doivent s'échanger dans une unité de temps, de lieu et d'action. Avec le terrorisme, la violence parle, certes, mais il manque une caractéristique essentielle à cette violence pour que nous puissions la qualifier de guerre, la réciprocité. Le terrorisme procède d'une relation dissymétrique. Et d'ailleurs, un fait est très révélateur à cet égard. Les policiers ont vite compris cette nuit que les preneurs d'otages du Bataclan ne voulaient pas négocier, mais ils voulaient en tuer le plus possible. Cela porte un nom, c'est un massacre de civils. Si nous étions en guerre, l'effet de cette nuit ne s'assimilerait pas à un acte de guerre, mais à un crime de guerre, ce qui est différent. On aurait pu parler de guerre si les djihadistes étaient directement affrontés. Arme au poing, aux forces de l'ordre. La force du terroriste, c'est de pervertir cette réciprocité, c'est d'esquiver, c'est de refuser le combat pour imposer sa propre règle du jeu. Car l'enjeu de tout conflit, c'est la définition de la règle d'engagement. Et à mon sens, il y aurait un grand risque à se mettre au niveau des terroristes. Il faut au contraire leur refuser la dignité de combattant. L'ennemi dans le terrorisme est insaisissable. Et la qualification de guerre de ces événements est donc un piège, car lorsqu'on fait la guerre que d'un seul côté, on finit toujours par la perdre. Et il ne faut s'engager que dans des guerres que l'on peut gagner. Et celle-ci est ingagnable. Au lieu de cette réciprocité, nous continuons de nous confronter à une asymétrie insupportable. Quelques jeunes bien entraînés arrivent à commettre un tel désastre. Insupportable car cette situation d'asymétrie place l'État d'emblée dans la position du perdant. Soit il surréagit et il perd son âme, c'est le cas du Patriot Act américain. Soit il ne se montre pas à la hauteur, il sous-réagit et il ne tardera pas à perdre le pouvoir, ne satisfaisant pas à son obligation principale, celle qui est la condition de toutes les autres, la sécurité. Donc, scène de guerre, oui, entrée en guerre, non. Et ne voyez aucune sous-estimation, aucune minimisation de la violence dans cette affirmation, tout au contraire. Car ce qui se profile est peut-être par certains côtés pire que la guerre. Dans son livre remarquable intitulé « La revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique », Pierre Asner conclut avec Raymond Aron que la Troisième Guerre mondiale reste aussi improbable que la vraie paix est impossible. Mais, ajoute-t-il, la période actuelle est en un sens plus dangereuse que la guerre froide d'antan, car celle-ci connaissait des frontières et des règles bien établies, alors que les différentes crises intérieures et globales accroissent la part d'imprévisibilité, donc d'inquiétude. Peut-être faut-il se résigner à la fin de la guerre, ce qui ne veut pas dire la fin de la violence, tout au contraire, c'est le retour d'états de violence au contour mal défini, c'est-à-dire d'une violence récurrente et détestable, très angoissante, mais qui nous frappe, nous autres Français, pour notre mode de vie. Si l'on se bat pour notre sécurité, on a déjà perdu, car la sécurité est un bien inatteignable dans sa forme absolue, et elle ne vaut rien si elle n'est pas totale. Dans la guerre classique, c'est un territoire qu'il faut défendre. Dans ces nouvelles violences, ce sont des valeurs, un mode de vie, je viens de le dire, que nous avons conquis de haute lutte. Ce sont les lumières qu'il faut défendre, comme cela a été rappelé cette nuit. Et ce n'est pas un hasard pour moi si les attaques se sont portées sur des salles de spectacle, un stade, des bars, c'est-à-dire des lieux de socialisation, des lieux de représentation, de plaisir, de culture. Ce qu'il faut défendre, c'est notre mode de vie ouvert, tolérant, c'est la liberté, l'égalité, le respect de tous. Mais peut-être cette nuit avons-nous découvert que cette liberté a un prix de plus en plus élevé dans un monde globalisé. Et c'est pour cela qu'il faut combattre, ne pas changer nos modes de vie et les valeurs qui les sous-tendent, mais accepter cette imprévisibilité, cette peur, cette part d'insécurité qui n'est autre peut-être que le beau risque de la liberté.
Merci beaucoup Antoine Garapon, je l'ai dit, donc vous restez avec nous jusqu'à 19h, jusqu'à la fin de cette édition spéciale. Vous serez rejoint d'ici quelques minutes par Vanessa Codaccioni et Mathieu Zagrodzki. Mais pour l'heure, à 18h, c'est l'heure du journal avec vous, Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Toutes les forces de sécurité disponibles en France sont mobilisées au lendemain des attentats, annonce tout à l'heure du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. En parallèle, l'enquête, bien sûr, continue sur ces attaques ultra-violentes et coordonnées à Saint-Denis et à Paris. Attaques revendiquées aujourd'hui par l'organisation État islamique.
Le bilan fait toujours état de 128 morts et d'innombrables blessés, dont beaucoup sont toujours entre la vie et la mort.
La solidarité et le soutien aux victimes s'organisent, notamment par le biais des réseaux sociaux. Mais que se passera-t-il dans les prochains jours? On sait que la COP21 aura bien lieu comme prévu, en présence d'ailleurs de Barack Obama qui a confirmé sa venue cet après-midi. Les écoles parisiennes et les universités doivent rouvrir lundi, c'est ce qu'indique le gouvernement. La vie doit continuer, mais combien de temps le dispositif de sécurité peut-il tenir à un si haut niveau en France? Et quelle forme peut prendre une éventuelle unité nationale? Quelles implications internationales ces attaques auront-elles également? Nous ferons le tour le plus complet possible de toutes ces questions dans cette édition spéciale. Ce samedi soir à Paris sera beaucoup moins léger qu'à l'habitude. Certains quartiers de la capitale touchés par ces attaques kamikazes sans précédent hier soir sont toujours bouclés. Et de nombreux signes aujourd'hui ont montré que les préoccupations d'ordre sécuritaire ont pris le pas momentanément au moins sur la vie quotidienne. Lara Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Les grandes artères parisiennes cet après-midi étaient étrangement calmes et en vertu d'une interdiction de rassemblement en vigueur sur tout le territoire de l'Île-de-France, Paris n'a pas connu aujourd'hui de grandes de manifestations populaires en hommage aux victimes.
Non Benoît, la portion du boulevard Voltaire où se trouve le Bataclan était bouclée cet après-midi. Au milieu des quarts de police et des journalistes du monde entier, une vingtaine de personnes est venue se recueillir. Devant les barrières métalliques, les bouquets de roses et les bâtons d'encens s'accumulent sans recouvrir les traces de sang sur la chaussée. Des habitants du quartier, des gens de passage et des touristes s'arrêtent. Valentina Pazinichikova vient de Russie. Malgré l'interdiction de se rassembler ordonnée par la préfecture, elle a voulu faire un geste.
C'est impossible de rester sans rien faire avec les bras baissés. On a mis des fleurs ce matin. Juste être sur place, ne pas rester chez soi. On n'a pas peur.
Un peu plus haut, sur la place de la République, des petits groupes spontanés se sont formés autour de la statue, recouverte de fleurs et de bougies. Un haut-parleur de la police invite la foule à se disperser à intervalles réguliers.
Je pense aux familles qui ont perdu des proches cette nuit. Je veux aussi dire que ces gens qui ont commis ces choses, il faut qu'ils sachent que j'avais pas peur hier, j'ai pas peur aujourd'hui et je n'aurai pas peur demain.
C'était Ludovic Marchand qui habite à côté. Il est venu partager son deuil mais aussi afficher sa détermination. À quelques pas de là, un groupe de graffeurs a peint la devise de la capitale sur une palissade. Fluctuat nec mergitur. Elle est battue par les flots mais ne sombre pas.
Merci Lara Mercier. Pour continuer sur l'ambiance parisienne au lendemain de ces attaques, j'ajoute que l'établissement français du sang annonce que ses centres de dons sont submergés par les franciliens et les touristes. Ça a été le cas toute la journée. Les établissements culturels publics, eux, resteront fermés demain en Île-de-France. Et le congrès de l'Association des maires de France qui devait se tenir de mardi à jeudi à Paris a été, lui, annulé et reporté au 31 mai prochain. Voilà pour quelques-unes des conséquences directes et visibles de ces attaques. Pour ce qui est des victimes, des familles et de leurs proches, c'est bien souvent une insoutenable attente qui a débuté, l'attente d'un rétablissement à l'hôpital, l'attente des conclusions de l'enquête qui risque d'être longue évidemment, et l'attente parfois tout simplement de nouvelles d'une personne, d'un ami qui ne donne plus signe de vie. Dans ces cas-là, les réseaux sociaux sont des outils évidemment très précieux. Catherine Pétillon.
Sans nouvelles de Chloé, dernière fois vue à terre devant le restaurant Le Petit Cambodge. Si quelqu'un sait où est Marie au Bataclan hier, contactez-nous. Je cherche mon cousin, s'il vous plaît, diffusez ce message. Sur Twitter et Facebook, des photos, des descriptions, des appels inquiets, des fils sans discontinuer depuis des heures, postés par les dizaines de personnes, toujours sans nouvelles de leurs proches depuis les attaques d'hier. Des avis de recherche partagés massivement, accompagnés de messages d'encouragement et de solidarité, sous le mot-clé « Recherche Paris ». Il arrive que ce terrifiant flot d'images soit interrompu par une rumeur qui enfle. Je crois l'avoir vu témoigner à la télé hier, puis retombe. Des nouvelles arrivent. Je suis médecin et j'aimerais joindre les proches de cette personne. Parfois, elles sont bonnes. Merci à tous. Joyce a été retrouvée en plein milieu des attaques. Il est sain et sauf. Mais le plus souvent, les appels restent sans réponse. Dès hier soir, Facebook a aussi déclenché son bouton d'urgence, un système créé pour les catastrophes naturelles qui permet de signaler à son entourage que l'on est en sécurité. Le ministère de l'Intérieur, lui, en plus du numéro vert, le 197, a mis en place une plateforme, l'adresse www.securite.interieur.gouv.fr permet de signaler une disparition, mais aussi de donner des informations ou témoignages sur les attaques d'hier. Les personnes qui veulent savoir si leurs proches sont hospitalisés peuvent aussi appeler le numéro mis en place par les hôpitaux de Paris, le 01 40 27 40 27.
Catherine Pétillon de la rédaction multimédia de France Culture et j'en profite pour vous signaler que sur franceculture.fr, notre site, vous retrouverez un dossier spécial et toutes les informations relatives à ces attentats, dossier mis à jour en permanence. Nous reviendrons dans un instant, et ce sera d'ailleurs le thème de cette émission spéciale, sur la problématique sécuritaire. Comment assurer un niveau de protection civile encore plus élevé que celui que nous connaissions depuis les attentats de janvier à Charlie Hebdo et dans l'hypercachère? C'est évidemment un casse-tête pour les autorités, mais d'abord, un point sur l'enquête qui s'internationalise et semble vouloir passer par Bruxelles ce soir. Un point avec vous, Catherine Dutu, bonsoir.
Bonsoir.
Que sait-on ce soir de ce qui s'est passé réellement, des auteurs de ces attaques, de leurs commanditaires éventuellement et d'éventuels complices?
Alors pour l'instant, Benoît, les enquêteurs tentent encore d'identifier les assaillants. Ils rassemblent toutes les preuves possibles à partir notamment d'indices trouvés sur leurs 8 cadavres, des corps déchiquetés, car 7 personnes se sont fait exploser. Les détails sont crus, mais c'est la réalité de l'enquête. L'un des assaillants de la salle de concert du Bataclan à Paris est français. Il a été identifié grâce à une empreinte digitale prélevée sur un doigt amputé. Il était connu des services de renseignement, fiché pour ses liens avec des islamistes radicaux selon une source proche de l'enquête. Un homme peut-être originaire de l'Essonne. Un passeport syrien pour lequel des vérifications sont en cours a également été retrouvé près du corps d'un terroriste au Bataclan. La priorité pour les enquêteurs est donc d'identifier les terroristes. Il s'agira ensuite de déterminer si ils ont profité de complicité. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste pour ces attaques, rappelons-le, les plus meurtrières en Europe depuis les attentats islamistes de Madrid en 2004. On devrait en savoir un peu plus dans une heure. Le procureur de Paris, François Molins, doit tenir une conférence de presse à 19h ce soir. Et vous le disiez, Benoît, des opérations policières sont en cours en Belgique, à Bruxelles, plus précisément dans le quartier populaire de Molenbeek. Pas de confirmation officielle, mais les médias belge parle d'une interpellation de 2-3 perquisitions dans ce quartier bruxellois. Molenbeek, connu pour abriter certains islamistes radicaux. Mehdine Mouche, soupçonné d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, a vécu dans ce quartier de Molenbeek à son retour de Raqqa, en Syrie. Et selon la BBC en langue arabe, la police serait à la recherche d'un véhicule de couleur noire avec une plaque d'immatriculation belge et 3 personnes à son bord. Plusieurs témoins affirment avoir observé une plaque d'immatriculation belge parmi les véhicules utilisés par les terroristes hier à Paris. Une hypothèse évoquée ce soir donc, celle d'une équipe venue de l'étranger renforcée de résidents français. C'est ce qu'évoquait François Hollande à l'issue d'un conseil de défense ce matin. Il a parlé des attentats d'hier comme d'actes de guerre préparés, organisés, planifiés de l'extérieur et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir.
Merci Catherine Dutu. Alors cet après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a présenté dans le détail le dispositif censé répondre à ces attentats. les gares sont sous surveillance, les policiers, les gendarmes, les démineurs, les pompiers et l'armée sont sur le pont. 230 gendarmes en renfort ont été mis à la disposition de la préfecture de police de Paris et deux sections du GIGN sont prépositionnées dans la région. Quant aux armées, elles ont dégagé un millier de militaires supplémentaires, essentiellement en Île-de-France, qui patrouilleront dans les rues de la capitale et autour dans les jours prochains en renfort de l'opération Sentinelle. Déjà, dans le cadre du plan Vigipirate, 30 000 policiers, gendarmes et militaires sont engagés depuis plusieurs mois à la protection de 5 000 lieux sensibles sur l'ensemble du territoire. Il faudrait pouvoir faire plus, selon le général Jean-Bernard Pinatel. Il est également docteur en sciences politiques et animateur du blog Géopolitique Géostratégie.
L'opération Sentinelle, c'est une opération, si vous voulez, de sécurité subjective. Ça rassure de voir des militaires déployés dans les rues, mais on ne pourra pas mettre devant tous les théâtres, devant tous les lieux publics, dans les métros, dans les RER, des militaires, dans tous les sites industriels Céveso en France. On n'a pas les réserves pour les relever et assurer cela en permanence. Tout le monde sait bien que pour un homme sur le terrain, il en faut deux autres derrière. Pendant ce temps-là, les gens ne se reposent pas, les gens ne se préparent pas, ne se remettent pas en condition. Donc ponctuellement, on peut augmenter le nombre, mais on ne peut pas durer. Or, la lutte contre Daesh et contre l'État islamique, ça ne va pas se régler en 3 mois. Donc on aura de toute façon un problème de protection. Donc il faut jouer aussi sur d'autres tableaux. Il faut mettre fin à toute la propagande salafiste qui est en France. Il y a 90 mosquées salafistes en France qui, tous les vendredis, prêchent la haine. Qu'attend-on pour les fermer, pour expédier les imams ailleurs quand ils ne sont pas français, ou les mettre en détention préventive. Il y a tout un arsenal juridique d'ailleurs, j'écoutais des policiers le dire, qu'il faut aussi mettre sur pied pour pouvoir faire de l'anticipation. Et cela, nos forces de sécurité en ont besoin.
Voilà, le général Jean-Bernard Pinatel répondait aux questions de Catherine Dutu.
Voilà, alors il faudrait pouvoir faire plus encore. Faut-il justement être en mesure de le faire s'agissant des effectifs et notamment des effectifs policiers? Bonsoir Mathieu Zagrosky.
Bonsoir.
Vous avez rejoint pour cette édition spéciale. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous travaillez sur la question de l'institution policière. Que fait la police? C'est d'ailleurs un de vos ouvrages qui avait été publié aux éditions de l'Aube. La question des effectifs policiers sont des effectifs qui sont sous tension depuis de nombreux mois. Est-ce qu'il est encore possible de dégager des marges de manœuvre, disons, pour augmenter cette présence policière, cette capacité policière à être présente sur le terrain de la lutte contre le terrorisme?
La question est effectivement complexe. Ça fait plusieurs mois que, comme vous dites, les syndicats de police se plaignent de la surcharge de travail. Il y a notamment le service de protection des personnalités qui se plaint. Il y a même eu des plaintes qui ont été déposées pour dire, voilà, on est en surmenage, on subit du harcèlement moral parce qu'on a une charge de travail qui est extrêmement importante. Maintenant, les marges de manœuvre, quelles sont-elles? Si on regarde les effectifs policiers en France, si on additionne grosso modo police, gendarmerie, on arrive à approximativement, à 200 000 personnes, ce qui à l'échelle européenne, aussi bien en densité territoriale qu'en densité par rapport à la population, est plutôt élevé. On est dans la tranche haute. Le souci, c'est que dans ce type de face à ce type de problématique, bon, vous avez deux types d'actions. Vous avez le renseignement d'un côté, c'est-à-dire tous les dispositifs qui vont permettre de prévenir en fait les attentats, et vous avez ensuite la réaction au moment où ces faits se produisent, ou plutôt la dissuasion sur le terrain, qui consiste en fait à déployer des effectifs visibles sur la voie publique. Là, le souci, c'est que vous aurez beau multiplier par 2, 3, 4, 5, 6 les effectifs policiers, vous n'arriverez jamais à mettre des policiers dans toutes les rues de Paris. C'est-à-dire qu'hier, les sites qui ont été attaqués, je pense notamment au quartier de Paris-Est, hein, autour de République, ce ne sont pas des sites stratégiques au sens où ils seraient surveillés en permanence. Ce n'est pas les Champs-Élysées, ce n'est pas les ministères, ce n'est pas la Tour Eiffel. Donc si vous voulez, il faudrait quasiment que la moitié de la population française s'engage dans la police et la gendarmerie. Ils n'en ont pas forcément envie et on n'en a pas les moyens.
Bon, on aura justement peut-être l'occasion d'aborder d'ici la fin de cette émission le niveau de coopération qui peut être celui de la population. Il ne s'agit évidemment pas de se substituer à la police, mais peut-être de l'aider, de collaborer avec les forces de police, Benoît Bouscarel.
Encore une question peut-être pour Mathieu Zabrowski. On a un discours depuis hier qui ne nous rassure pas vraiment. C'est-à-dire qu'on entend dire on ne peut rien faire, ou en tout cas la réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Est-ce que c'est cette conclusion qu'on peut tirer ce soir?
Une fois que le processus est enclenché, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. À partir du moment où vous avez un groupe de personnes motivées, armées, équipées, qui ont décidé de frapper à tel endroit, à tel moment, si on ne l'a pas anticipé en amont, il est impossible de stopper les choses. Moi, j'ai entendu un analyste, ou plutôt pseudo-analyste, sur une chaîne d'information en continu ce matin, qui a dit « la police n'a pas réagi suffisamment vite ». Mais oui, mais la police, elle n'est pas à tous les coins de rue, elle ne peut pas être partout, elle ne peut pas se projeter d'un point A à un point B en 30 secondes. C'est pas possible.
On vous retrouve dans le courant de cette émission, Mathieu Zabrowski. Merci pour cette première réponse. Et voilà qui nous amène à nous intéresser à la question politique. Nous sommes à 3 semaines maintenant des élections régionales et la thématique sécuritaire sera évidemment au centre du débat. Elle l'était déjà, elle le sera encore plus. Voir quelle réponse politique est apportée aux attaques d'hier soir permettra peut-être de mieux comprendre la séquence qui s'ouvre pour les prochaines semaines et les prochains mois. Christine Moncla, bonsoir.
Bonsoir, Benoît.
Il y a au lendemain de ces attentats une unité nationale, tout de même en France, comme François Hollande l'appelait de ses voeux dès hier soir, mais elle semble, Christine, différente de celle qu'on a connue en janvier dernier après les attaques à Charlie Hebdo et à l'hypercachère. Quel contour prend ce soir cette unité?
Alors, dans ses fondamentaux, elle existe quand même, cette unité nationale. Elle se matérialisera, par exemple, demain par une rencontre entre François Hollande et le chef de l'opposition, Nicolas Sarkozy, ou lundi par une réunion extraordinaire de tout le Parlement en congrès à Versailles, devant lequel le président de la République prendra la parole. Autre image de cette unité du moment, celle d'Anne Hidalgo, maire de Paris, entourée des élus parisiens de tous bords qui rend un hommage appuyé à sa rivale politique Nathalie Kosciusko-Morizet et qui affirmait aujourd'hui ce message « Paris cosmopolite vivra ».
Les quartiers qui ont été frappés, les lieux qui ont été visés sont des lieux qu'on aime, de ce Paris qu'on aime, ce Paris populaire, ce Paris très ouvert, ce Paris heureux de partager les cultures du monde, parce que c'est un Paris qui est fort de sa diversité, de la diversité d'origine de ses habitants. C'est ce Paris-là qui a été atteint, sans doute parce que ce modèle du vivre ensemble est insupportable pour des fanatiques. Le message que nous voulons leur donner ici, avec l'ensemble des présidents de groupe, et je les remercie, c'est que nous serons plus forts que ceux qui veulent nous résoudre au silence et faire en sorte que notre jeunesse, que ce modèle soit affaibli, voire même annihilé.
Mais en effet, Benoît, entre les lignes de certaines autres déclarations, on perçoit déjà des failles. Certains écologistes qui avaient soutenu les interventions militaires de la France à l'étranger suggèrent de revoir la stratégie géopolitique à terme. Et puis, c'est à droite, bien sûr, que l'on entend le plus de critiques. Nicolas Sarkozy lui-même réclame des inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit assurée. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est implicitement visé, alors que ses services reconnaissent qu'au moins l'un des terroristes était connu. Et que ce n'est pas la première fois, puisque, on s'en souvient, les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly eux-mêmes étaient également fichés, avaient été surveillés. Puis, à l'extrême droite, le Front National demande maintenant à être inclus dans l'unité nationale. Rappelons qu'en janvier, le FN n'avait pas été invité à manifester. Le parti, qui était d'ailleurs resté assez discret après Charlie, a cette fois réagi beaucoup plus vite via une conférence de presse de Marine Le Pen cet après-midi. Elle appelle à réarmer la France et à expulser les prédicateurs étrangers. Et aussi, a-t-elle ajouté, en n'hésitant pas à tomber dans l'amalgame généralisé, à expulser tous les clandestins. C'est ainsi que le Front National appelle les migrants et les réfugiés. Alors même si ce n'est pas forcément évident quand on entend cela, il faut savoir quand même que les campagnes électorales des régionales de tous les partis ont tout de même été suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Christine Moncla, merci. De par le monde, les réactions ont été innombrables. Syrie, mis à part les diplomaties, s'accordent pour soutenir la France, dénoncer les attentats d'hier soir et condamner le terrorisme. Et les manifestations de soutien ont été très nombreuses depuis hier soir. En Italie, la Marseillaise a été chantée aujourd'hui sur les terrains de football. À Londres, les drapeaux sont en berne, des rassemblements sont organisés à Trafalgar Square et les monuments sont illuminés aux couleurs du drapeau français pour rendre hommage à ce que Londres considère comme sa ville sœur. Ce ne sont là que quelques exemples. En Espagne aussi, l'émotion est considérable depuis hier et les réactions de la société civile comme des politiques et des autorités sont unanimes. C'est une correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
L'Espagne a voulu partager la douleur de la France et a fait preuve d'un élan de solidarité très fort tout au long de cette journée. Le chef du gouvernement Mariano Rajoy a affirmé ce matin devant la presse « Aujourd'hui, nous sommes tous la France. La terreur n'est jamais venue à bout de l'Europe », a-t-il ajouté, avant de présider un Conseil de sécurité nationale extraordinaire. Le roi Felipe VI et la reine Letizia ont également fait preuve de leur solidarité en se rendant à la mi-journée à la résidence de l'ambassadeur de France à Madrid. Le roi a écrit dans un livre de condoléances « La douleur de la France et la douleur de l'Espagne. À la mi-journée également, la maire de Madrid, Manuela Carmena, a observé une minute de silence devant la mairie de Madrid, en présence notamment de l'ambassadeur français. Carmena qui a déclaré « Nous avons vécu la même chose, nous sommes de tout cœur avec le peuple de Paris ». Les représentants du gouvernement régional madrilène ont observé 5 minutes de silence sur la célèbre Puerta del Sol et ont décrété 3 jours de deuil officiel. Par ailleurs, un mois avant les élections législatives, les actes de pré-campagne ont été annulés. Quant à la sécurité nationale, le ministre de l'Intérieur Jorge Fernández Díaz a annoncé que l'Espagne maintenait le niveau d'alerte antiterroriste 4 sur une échelle de 5. Le ministre qui a lancé également un appel au calme. Près de 170 personnes ont été interpellées depuis 4 ans en Espagne pour des liens présumés avec le terrorisme djihadiste.
Quelles conséquences auront les attentats d'hier soir sur la diplomatie? Autre question qui se pose ce soir, quelles conséquences notamment sur la crise en cours en Syrie, puisque les assaillants hier ont fait référence, d'après les témoins, aux frappes françaises sur l'organisation État islamique en Syrie. Comment la situation en France est-elle liée à la situation en Syrie? Il faut passer par Vienne pour tenter de le comprendre ce soir. Bonsoir Ludovic Piétonu.
Bonsoir Manin.
Un nouveau sommet avait lieu aujourd'hui dans la capitale autrichienne pour tenter de régler le conflit en Syrie.
Ouais, avec un peu plus de choses concrètes sorties de cette réunion, un calendrier pour commencer dans le mois et demi qui vient, le dialogue intersyrien est la chose prioritaire, faire se rencontrer opposition et gouvernement d'ici le 1er janvier pour entamer ce processus de transition qui doit conduire à un gouvernement d'union à la mi-2016 et à des élections en 2017. Tout est donc dans l'avenir du dialogue intersyrien pour essayer d'aboutir à une réforme constitutionnelle. Aux yeux des Occidentaux, cela permettrait d'enclencher le départ de Bachar al-Assad. Sur son avenir, il n'y a pas eu d'accord sur ce point aujourd'hui, soyons clairs. Il y a toujours des divergences, a dit l'américain John Kerry, divergences avec les Russes, avec les Iraniens. Son départ reste un point dur, les réticences demeurent, me glissait une source diplomatique occidentale. Néanmoins, pour la première fois, a été mis à plat un certain nombre de mécanismes qu'il n'y avait pas les fois précédentes, parce qu'il y a un travail diplomatique qui finit par payer, parce qu'il y a aussi urgence à agir, a dit le ministre français Laurent Fabius à son arrivée à Vienne, où il recevait les messages de solidarité d'arrêter toutes les délégations après les attaques de la veille à Paris, car au fond, la pression, Benoît, est aussi de plus en plus forte sur les épaules des pays réunis. Au moins 5 acteurs de cette réunion de Vienne sont maintenant concernés au premier chef, bien sûr, la Syrie, les Syriens par 4 ans et demi de conflit, la Russie avec l'avion de Sharm el-Sher qui a sans doute payé là le prix un mois après son engagement militaire, 224 civils tués, le Liban, le Hezbollah libanais qui combat sur le front syrien, visé avant-hier dans son fief de Beyrouth par un double attentat suicide, 44 mort. La Turquie, il y a un mois, et sa capitale, attentat suicide devant la gare centrale d'Ankara, 102 morts, plus de 500 blessés, et puis maintenant, la France, au moins 128 morts.
Merci Ludovic Piétonu. On le disait un peu plus tôt dans ce journal, le détenteur d'un passeport syrien découvert près du corps d'un des auteurs des attaques d'hier soir est passé, semble-t-il, par la Grèce en octobre. Il était enregistré comme migrant, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le vice-ministre grec chargé de la police, ce qui ne veut pas dire que le terroriste était un migrant, une mise en scène n'étant pas exclue évidemment ce soir. Et si la Pologne annonce qu'elle ne pourra pas respecter les accords européens de relocalisation d'immigrés à cause des attentats de Paris, d'autres réactions sont beaucoup plus mesurées en Europe. Pour Berlin, il ne faut pas traiter les migrants comme de potentiels terroristes. Opinion partagée par Martin Schulz, le président du Parlement européen, qu'a rencontré tout à l'heure Pierre Benazé.
Il faut pas permettre à ceux qui veulent maintenant avoir un profit politique de l'avoir. L'Europe doit être vigilante de pas permettre un mélange entre les problèmes des réfugiés et ces attentats. Parce que ces gens qui sont en fuite de la Syrie pour chercher de la protection chez nous sont les victimes de Daesh. Ce sont les gens qui quittent leur patrie à cause des actions similaires en Syrie de ce qui se passe à Paris actuellement. Ce qui était le cas hier à Paris, c'est l'expérience de tous les jours à Alep, à Homs, à Damas. Maintenant, de dire « Ah, c'est à cause des réfugiés », que notre risque est augmenté, c'est une façon de transformer les victimes en malfaiteurs. Et ça, c'est inadmissible. Il y a eu des déficits de l'intégration qui ont créé une sorte de dépression et de malaise parmi surtout des jeunes. Mais il faut qu'on reste raisonnable et il ne faut pas les prendre comme représentatives pour tous les musulmans, par exemple, qui habitent chez nous et qui sont des hommes et femmes qui ne veulent que vivre en paix et liberté.
Martin Schulz répondait aux questions de Pierre Benazet du bureau de Radio France à Bruxelles. Cette édition spéciale continue sur France Culture. Il est 18h24, Hervé Gardette.
Voilà, jusqu'à 19h pour essayer de voir quelles peuvent être les réponses en matière de sécurité. Nous a rejoint en studio Vanessa Codaccioni. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8. Vous venez de publier, je crois que votre ouvrage est sorti avant-hier, « Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes ». C'est publié aux éditions du CNRS. Mathieu Zagrodzki est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, consultant en sécurité publique. Et puis vous l'avez entendu juste avant 18h, Antoine Garapon, rebonsoir. Bonsoir. Magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Dans votre chronique à 17h55, vous nous expliquiez, enfin vous reveniez sur cette formule qu'on entend beaucoup, une des formules qu'on entend beaucoup depuis quelques heures, la France est en guerre. La France a décrété en tout cas l'état d'urgence. L'état d'urgence, d'un point de vue déjà juridique, Antoine Garapon, ça n'est pas l'état de guerre. Ce sont deux notions qui ne sont pas forcément correspondantes.
Pas du tout. L'état d'urgence, c'est la volonté de maîtriser l'espace public au cas comme celui-ci, dans lequel il échappe. J'observe qu'il est né en 1950, il a été créé par une loi du 3 avril 55, à un moment, justement, de la guerre au début de la guerre d'Algérie, dans lequel on était dérouté, les forces de l'ordre étaient déroutées par cette guerre qui se passait aussi bien dans la campagne sans front que dans les villes, aussi bien en Algérie qu'en France.
Il faut se souvenir d'ailleurs qu'à l'époque, on ne parlait pas de guerre, justement.
Alors, on parlait d'événements d'Algérie, absolument. Et on ne voulait pas prononcer le mot guerre. Et c'est très surprenant de voir à quel point, aujourd'hui, on se précipite à prononcer le mot guerre. Et il me semble qu'il faut faire la différence entre acte de guerre, scène de guerre, et puis la guerre qui est autre chose.
L'état d'urgence est un dispositif, c'est un arsenal juridique, Vanessa Codaccioni. Est-ce que c'est un arsenal qui a beaucoup évolué justement depuis 1955? Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui permet finalement de prendre toutes les décisions que l'on souhaite, ou bien est-ce que c'est quand même quelque chose qui reste encore un peu cadré?
Alors, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est une disposition, on vient de le rappeler, qui permet de contrôler l'espace, les idées, mais aussi les personnes. Alors, on peut rappeler certaines mesures, les couvre-feux, l'interdiction des rassemblements collectifs, comme les réunions, les manifestations, l'interdiction de la circulation des personnes, la fermeture de certains lieux publics, évidemment, mais aussi des dispositions répressives, comme les perquisitions de nuit, les interdictions de séjour, les internements, le contrôle de la presse. Et c'est là, justement, où il y a une différence avec l'état de siège ou de guerre, c'est que ce n'est pas l'autorité militaire qui prend les décisions, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur et les préfets. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième précision juridique, c'est que l'état d'urgence est contrôlé, c'est-à-dire il est encadré temporellement. Il ne doit pas durer, excéder plus de 12 jours, sinon c'est à l'Assemblée nationale de se prononcer sur son maintien ou sa reconduction.
Encadrer, ça veut dire, Antoine Garapon, qu'il peut y avoir des recours si les dispositions, disons, de l'état d'urgence ne sont pas... Enfin, si certaines dispositions sont prises en dehors de ce qui est prévu par l'état d'urgence.
Oui, d'abord pour demander la réannulation, ensuite pour excès de pouvoir dans le Conseil d'État, mais il y a surtout l'encadrement temporel. C'est 12 jours après, il y a une discussion politique. Alors que l'état de siège, et ce qu'on a vu en Algérie, c'est que c'est une sorte de délégation à l'autorité militaire, aussi bien pour la justice que pour les opérations de police, de l'intégralité du maintien de l'ordre public, ce qui est beaucoup plus dangereux, et dont le contrôle, l'expérience de la guerre d'Algérie est là pour le montrer, dont le contrôle par le Conseil d'État et par les recours juridictionnels est quand même relativement faible.
Vanessa Codaccioni.
Oui, sur le Conseil d'État, effectivement, les citoyens peuvent faire des recours pour excès de pouvoir. Ça s'est fait pendant la guerre d'Algérie, notamment contre les internements arbitraires, puisqu'il faut savoir que les assignations à résidence, les internements ont donné lieu à des créations de camps, en fait, d'internement, et donc beaucoup d'individus ont déposé plainte. Mais il faut savoir que le Conseil d'État, par exemple, a légitimé certaines mesures au nom des circonstances exceptionnelles, et c'est là aussi qu'il faut faire attention.
Mathieu Zagrodzki.
Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, et également sur la question qui m'a été posée précédemment sur les marges de manœuvre en termes d'effectifs. L'interview que vous avez diffusée de cette personne qui parlait des renforts militaires notamment. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cette prééminence du pouvoir civil, elle est extrêmement importante dans l'usage des militaires dans le cadre de Vigipirate. Il ne faut pas oublier, enfin, on pense que les militaires qui patrouillent dans nos rues avec des fusils d'assaut peuvent en fait intervenir en toutes circonstances. En réalité, ils ne le peuvent qu'en cas de légitime défense. Ils restent malgré tout soumis à l'autorité civile et ne peuvent en réalité intervenir que s'il y a ordre de l'autorité civile. Hors
donc, ils sont mis à disposition des forces de police, en fait, c'est comme ça ?
C'est un peu ça, ils sont mis à la disposition, enfin, ils sont sous le contrôle du préfet, comment dire, du préfet de département, mais ils ne peuvent pas prendre d'initiative par eux-mêmes. C'est très très important à savoir, et beaucoup de gens, en fait, ne le réalisent pas. C'est que, dans une situation très très concrète, de danger où il y a un acte terroriste, mais où ils ne sont pas attaqués directement, normalement, ils doivent recevoir l'autorisation pour ouvrir le feu, à moins qu'ils soient eux-mêmes directement soumis à un danger. Auquel cas, ils sont soumis, comme tout le monde, aux règles de la légitime défense.
Je reviens peut-être sur ces centres d'internement dont on parlait à l'instant avec vous, Vanessa Codaccioni. Est-ce que la proposition qu'on a entendue tout à l'heure de Laurent Wauquiez, d'interner, enfin de prendre 4000 personnes fichées pour terrorisme et de les interner dans des centres, pourrait relever de l'état d'urgence ?
Oui, ça pourrait tout à fait se faire. Alors évidemment, il faut dénoncer ce type de propositions qui sont totalement inacceptables. C'est honteux de dire des choses comme ça.
Ça a été assez largement dénoncé d'ailleurs.
Il faut le souligner. Mais ce serait possible, oui, dans des internements administratifs ou des assignations en résidence beaucoup plus larges. Donc il faut faire attention.
Antoine Garapon.
C'est une vieille problématique. C'est celle de Guantanamo, entre parenthèses. C'est celle des internements des Japonais. Alors c'est un très grand précédent en droit américain. L'affaire Korematsu qui a été malheureusement homologuée par la Cour suprême et qui est toujours un peu une tâche dans l'histoire de la Cour suprême. Et donc, je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que on ne peut pas répondre à la proposition de Wauquiez, à Laurent Wauquiez, uniquement sur une base morale. C'est très contre-productif parce que l'affiche S, c'est la fameuse fiche S, elle consiste à rentrer, infiltrer, comprendre. Le travail de renseignement, c'est pas un travail directement répressif, c'est un travail de comprendre, de rentrer en quelque sorte dans la mentalité du djihadiste pour maîtriser pour maîtriser des réseaux, maîtriser leur méthode de raisonnement et finalement mieux les connaître pour mieux les combattre. C'est pas du tout de les bloquer tout de suite, ça serait extrêmement contre-productif d'un point de vue sécuritaire.
Même si quand on figure sur ces fiches S, c'est qu'on est porteur d'un niveau de dangerosité qui a priori est important et on peut effectivement comprendre la logique, la cohérence d'un discours qui reviendrait à dire ces personnes-là, il faut, en tout cas si ce n'est les interner, mais absolument les isoler pour qu'elles soient pour les neutraliser.
Alors il faudrait faire une différence parce que les fiches S, il y a des degrés de dangerosité qui ouvrent à des droits particuliers. C'est un système un peu archaïque à vrai dire à l'heure d'Internet et à l'heure des réseaux sociaux. Alors moi je ferai une différence entre les djihadistes, c'est-à-dire les jeunes suspectés de radicalisation, qui est une population particulière, à mon avis à l'égard de laquelle il faut être extrêmement actif, mais intelligemment actif et certainement pas directement répressif, des agents radicalisateurs, là, qui posent un autre problème. On a parlé des imams et on peut parler d'autres organisateurs de filières. Alors là, qui sont des manipulateurs, qui sont des gens qui méritent, à mon avis, un traitement beaucoup plus déterminé.
Alors, je voudrais revenir sur cette question, on y est toujours, en fait, sur cette question de l'état d'urgence et sur la définition juridique qui est importante. L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Alors, une des formules évidemment extrêmement importantes dans cette définition, c'est celle de péril imminent. C'est extrêmement difficile de dire qu'on n'est plus dans une période de péril imminent dans la période qu'on est justement en train de vivre, Vanessa Codaccioni, c'est-à-dire qu'une menace terroriste dont on voit bien qu'elle est compliquée c'est compliqué de lutter contre cette menace, puisque ce n'est pas un petit groupe qui est dangereux, mais ce sont des dizaines d'individus potentiellement dangereux. Est-ce que ça veut dire que cet état d'urgence peut durer longtemps ? Ou est-ce qu'il y a une durée limitée au-delà de laquelle on ne peut pas aller ?
Écoutez, ça fait six fois, c'est la sixième fois qu'on met en place l'état d'urgence en France. Une première fois, on l'a rappelé tout à l'heure, au début de la guerre d'Algérie, 1955, ça a duré un an. En 1958, ça a duré trois mois. Mais ensuite, ça a toujours été des durées limitées. Donc, ça peut durer quelques mois. Si l'Assemblée nationale le décide au bout de 12 jours, alors là, il va y avoir des discussions politiques. Ça peut durer, effectivement, plusieurs mois, ça peut durer un an. Voilà.
Sur cette notion de péril imminent, Antoine Garapon.
Ben, moi, je crois que cette nuit, on avait un très bel exemple du cas de figure, du cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un état de panique généralisé, des attaques qui sont dans plusieurs endroits. Il faut maîtriser, retrouver la maîtrise de la rue pour des raisons de secours aux blessés, pour des raisons politiques. Mais à mon sens, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas s'éterniser plus que quelques jours, une fois que l'ordre public sera de nouveau restauré, ce qui est d'ailleurs en train de se passer aujourd'hui. Donc c'est vraiment des mesures qui sont adaptées, le sens du législateur. Hein. Aujourd'hui, où nous ne sommes plus dans le cas de la guerre d'Algérie, c'est véritablement adapté pour des situations extrêmement confuses et où il y a un réel péril imminent.
Il y a aussi un message politique. Quand François Hollande, hier soir, dit « j'ai décidé de décréter l'état d'urgence », c'est aussi un message politique qu'il envoie.
Bien
sûr. C'est une arme très importante
en cas de
crise comme ça.
Bien sûr, parce que si vous voulez, les problèmes de sécurité, ça a déjà été abordé, c'est des problèmes qui sont à la fois des problèmes réels et des problèmes de confiance, des problèmes de perception. Et l'opération Sentinelle, c'est essentiellement une opération pour rassurer le public, beaucoup plus que pour le protéger, effectivement. Parce que la prévention du terrorisme, ça passe par beaucoup d'autres moyens que par le fait de se promener avec des armes apparentes dans la rue. Alors je crois que ce qu'il fallait montrer, c'était montré, puisque le terroriste menace directement, comme ça c'est très ancien, le terroriste, le rebelle, il menace directement le souverain, les titulaires de la souveraineté. Et donc il fallait montrer, comme un message politique, que le souverain restait souverain et qu'il maîtrisait la situation, qu'il se donnait les moyens pour la rétablir.
Il faut que la protection soit visible, mais assurer sur le long terme effectivement une protection extrêmement visible. Vous le disiez tout à l'heure, Mathieu Zagrodzki, c'est compliqué parce que les effectifs ne sont pas extensibles à souhait. Et d'autant que les opérations de police traditionnelles, elles, continuent aussi à être essentielles, c'est-à-dire celles qui sortent justement de cette lutte contre le terrorisme ou de la protection de la population liée à cette lutte contre le terrorisme. Est-ce que l'impact évidemment des attaques d'hier, il est compliqué à évaluer, mais on peut voir un petit peu ce qui s'est passé au moins depuis début janvier. Est-ce qu'il y a des opérations, par exemple, de police traditionnelle qui ont dû être différées du fait de cette mobilisation de la police sur le terrorisme ?
C'est vrai qu'on commence à avoir un certain recul sur ce qui s'est passé depuis janvier. On voit l'impact que ça a eu sur le travail de la police. De toute façon, c'est mathématique. Vous donnez un certain type, un certain nombre, un certain éventail de tâches aux policiers en termes de protection de sites notamment, le temps qu'ils y consacrent est, par définition, soustrait aux activités, traditionnelles de la police, qui est la réponse aux appels. En d'autres termes, quand vous positionnez des policiers qui ne poussent pas sur les arbres, entre guillemets, qui sont des effectifs ponctionnés dans les commissariats pour faire des gardes statiques devant des bâtiments officiels, devant des lieux de culte, devant des écoles, devant des grandes rédactions, pendant ce temps-là, ils ne sont pas en patrouille, ils ne peuvent pas répondre aux appels au 17, et il est évident qu'aujourd'hui, un certain nombre d'appels au 17 sur des faits peu graves, je parle de tapage, de conflits de voisinage, de petites délinquances, ne sont plus ou pratiquement pas traités.
Est-ce que ça provoque des modifications également plus profondes sur ce qu'est l'institution policière aujourd'hui ? C'est-à-dire sur ce que doivent être les missions, finalement, que doit remplir la police ?
La question est compliquée. Encore, vous l'avez très justement dit, on n'a pas encore le recul pour savoir ce que ça va donner par rapport aux incidents d'hier. Est-ce que ça doit produire une restructuration de la mission policière ? J'ai tendance à dire que non, parce que c'est pas parce qu'on a des problèmes de terrorisme qui sont gravissimes, personne sur ce plateau ne pourra le nier, et personne, ne minimise ici cette question-là, mais il y aura toujours une attente, malgré tout, de sécurité quotidienne. Hein. Et jusqu'à hier, certes, la menace terroriste existait, on en était conscient, mais on était revenu à une situation plus normale, entre guillemets, où la principale préoccupation, c'est la sécurité quotidienne. Il n'y a qu'à voir la Convention des Républicains la semaine dernière sur la question, il a été avant tout question justement de délinquance, de cambriolage, de choses plus quotidiennes. Je rappelle juste une chose pour donner un peu de perspective historique à cela. Pendant très très longtemps, en liaison avec les événements qui ont été évoqués par Vanessa Codacchini, on a reproché à la police française de trop se focaliser sur des questions de sécurité nationale, de renseignement, de démantèlement de grands réseaux de banditisme, au mépris de la sécurité quotidienne des Français. Hein, et justement, toute la réflexion qu'il y a eu dans les années 80-90 autour de la police de proximité notamment, c'était une manière d'y remédier, de dire, bon, ok, il y a des problèmes de sécurité nationale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la sécurité quotidienne du citoyen qui est victime de vols, d'intimidations, de petits délits, et que ça aussi, il faut le traiter.
Vanessa Codaccioni, ce reproche qui peut être fait ou qui a pu être fait à la police de peut-être trop se disperser, est-ce que c'est aussi un reproche qu'on pourrait faire à la justice? C'est-à-dire du fait justement de ces... alors, je ne vais pas parler d'état d'exception, mais enfin... En tout cas, de ces lois d'exception, hein, et de ces lois dérogatoires à la loi normale, une justice qui finirait par, elle aussi, dévier un petit peu de ces missions les plus traditionnelles.
Ce qu'on peut dire sur la justice, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a des juges spécialisés dans l'antiterrorisme, hein, qui sont une forme de juridiction d'exception. Quant à la justice jugeante, on pourrait dire, aujourd'hui, donc la cour d'assises spécialement composée, qui est spécialisée dans le terrorisme, ou le tribunal correctionnel, en réalité, on voit qu'ils ne sont pas peu répressifs. Si on regarde
Ce sont des juridictions d'exception.
Ce sont des juridictions dérogatoires au droit commun qui instaurent deux régimes parallèles. Une, par exemple, la cour d'assises, elle est ordinaire pour les citoyens comme vous et moi, et puis elle est d'exception pour les gens accusés, par exemple, de crimes en lien avec un attentat, un acte terroriste.
Je voyais sourire Antoine Garapon.
Oui, pour les juristes, une juridiction d'exception n'a pas du tout le même sens que pour le grand public. Ça s'oppose à la compétence résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a les juges qui ont vocation à tout juger, et puis il y a des juges qui sont spécialisés. Moi, j'ai été pendant longtemps juge des enfants, j'étais une juridiction d'exception, dans le sens où lorsqu'un mineur était impliqué, il fallait que ça soit dirigé vers le juge d'enfants. Je dirais plutôt que les juges d'instruction et la section antiterroriste est une unité spécialisée. Ce serait le mot qui convient le mieux, à mon sens.
Oui, Vanessa Codaccioni.
Oui, en fait, c'est tout le débat. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des juridictions spécialisées ou est-ce que ce sont des juridictions d'exception? D'un point de vue critique, on peut dire que ce sont des juridictions qui introduisent une inégalité entre les citoyens. Si vous êtes accusé d'association de malfaiteurs, par exemple, vous encourez une garde à vue beaucoup plus longue, des peines beaucoup plus graves, etc.
Alors justement, dans votre livre « Justice d'exception », vous agrandissez cette liste des mesures dérogatoires qui peuvent être prises au nom de la lutte antiterroriste, garde à vue prolongée, centralisation de l'instruction des affaires terroristes. Vous parlez même d'une tradition du recours à la justice d'exception. Et je vais citer cette phrase que j'ai lue dans l'introduction, parce que je vais faire un aveu. Hein. Voilà, j'ai découvert, pour tout vous dire, votre livre ce matin, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais dans l'introduction, vous dites ceci: on peut considérer que la justice d'exception est une institution centrale du système punitif et pénal français.
Oui, je confirme. Depuis la Révolution française, on a des juridictions d'exception qui ont toujours émaillé la chronologie des guerres françaises. Hein. Seule la Troisième République n'a pas connu ce type de juridiction, qui sont plutôt des juridictions composées par des militaires et puis par des magistrats professionnels.
Ça voudrait dire que quoi, qu'un fonctionnement quasi normal de la justice française, c'est une justice qui fonctionnerait sous le régime de l'exception?
C'est-à-dire?
Eh bien, ça veut dire que finalement, l'exception est devenue la règle,
non.
Est devenue la norme.
Non. Non, non, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas que l'exception devienne la norme. Je crois qu'on est dans des états de droit. Mais il y a de plus en plus de dispositifs d'exception qui sont votés par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale. Et des dispositifs d'exception permanents. Donc, pas d'état d'exception permanent, mais une multiplication des dispositifs d'exception permanents.
Vous partagez ce constat, Antoine Garapon?
Oui, je reprendrai ce qui a été dit sur l'histoire de la justice française. C'est vrai que la justice a été utilisée pendant le 19e siècle et une partie du 20e siècle pour combattre les opposants politiques, c'est absolument exact. Mais la rupture, le changement d'époque qui s'opère avec le djihadisme, c'est qu'il ne s'agit pas de la même subversion. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas assimiler le djihadiste à la subversion politique qui était, y compris les anarchistes de la fin du 19e avec les lois scélérates. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau du fait de la déterritorialisation, du fait de la mondialisation, c'est qu'on a affaire à une violence de masse et non pas ciblée comme celle que peuvent pratiquer plus les anarchistes et qui amène un élément international qui n'existait pas auparavant. Donc je crois qu'effectivement, il y a un défi nouveau qui est comment combattre avec les armes du droit ce phénomène du terrorisme djihadiste ou du terrorisme déterritorialisé. Et si vous voulez, je dirais, il y a deux écoles. Finalement, la France adapte ses institutions pour rester dans l'état de droit et rester dans la justice. L'exemple qu'ont montré aussi bien les Anglais que les Américains, qui ont des systèmes qui sont considérés comme étant plus protecteurs des libertés que les nôtres, c'est qu'ils n'ont pas pu juger le terrorisme et qu'ils ont en quelque sorte disjoncté. C'est un peu le chêne et le roseau, si vous voulez. Donc nous, la force du système français, avec les imperfections qui viennent d'être soulignées par Vanessa Codaccioli, on étend la possibilité de la justice, mais on reste dans le système judiciaire. Alors que dans d'autres systèmes, et ils ont dû sortir du système judiciaire.
On a des contre-pouvoirs, et notamment des contre-pouvoirs juridiques, Vanessa Codaccioli, qui nous préserve de tomber dans un état d'exception permanent ou dans un état policier.
Oui, je crois qu'il faut insister là-dessus. On est malgré tout dans des états, des régimes démocratiques. On n'est pas dans un état sécuritaire, on n'est pas dans un état policier. Grâce à certaines institutions, alors qui fonctionnent parfois bien et parfois moins bien, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, s'il y a procès, la Cour de cassation, mais aussi, on peut dire, les citoyens, c'est-à-dire les mobilisations citoyennes qui peuvent aussi amoindrir la portée de certaines dispositions.
Et on l'a vu, par exemple, avec le débat, même si c'était pas un débat d'ampleur nationale et si large que ça, mais avec la discussion au Parlement sur la loi sur le renseignement, il y a un certain nombre d'ONG et d'organisations, en tout cas citoyennes, qui se sont mobilisées justement pour essayer d'opposer aux législateurs un certain nombre de garde-fous, Antoine Garapon.
Tout à fait, un débat très tonique et un débat qui, à mon avis, a été extrêmement riche et extrêmement intéressant. Alors, c'est vrai que nous sommes face à non seulement à des défis nouveaux, mais à des technologies de surveillance nouvelles. C'était les doubles enjeux de la loi sur la surveillance. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, c'est du moins mon point de vue, c'est que l'État ne peut pas se priver de nouvelles technologies de surveillance, mais plus de pouvoir confié à la surveillance, plus de contrôle politique et de contre-pouvoir. C'est ça ce qui n'allait pas dans cette loi.
Sauf que c'est peut-être aussi ce que demandent de plus en plus de citoyens et ce qui va être de plus en plus demandé aujourd'hui. Or, la réponse politique, elle doit aussi tenir compte, évidemment elle ne tient pas compte que de ça, mais elle doit aussi tenir compte des attentes, Antoine Garapon.
Bien entendu, et puis aussi d'un autre phénomène qui est tout à fait nouveau par rapport à la situation même du XXe siècle, c'est l'importance que prend le secteur privé dans les techniques de surveillance et dans ce qu'on appelle aujourd'hui la coproduction de la sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État tout seul, et ça a été dit d'ailleurs sur votre antenne, j'ai entendu ça aujourd'hui, ne peut plus assurer l'intégralité de la sécurité et qui doit s'ouvrir au secteur privé.
Mathieu Zagrodzki, justement, sur cette coproduction, cette nécessaire peut-être coproduction justement de la sécurité, du fait, comme vous l'avez dit depuis le début, d'effectifs limités, forcément limités, de la police notamment.
C'est effectivement quelque chose qui a été officiellement reconnu par la loi en France en 1995, avec la première loi d'orientation sur la sécurité, dite loi Pasqua, qui justement parle explicitement de coproduction entre le public et le privé en matière de sécurité. Ça pose tout un tas d'enjeux. Déjà, premièrement, aujourd'hui, en France, la sécurité privée n'a pas l'importance qu'elle a en Europe de l'Est ou en Europe du Nord ou dans le monde anglo-saxon. De mémoire, comme ça, on a 0,6 agents privés pour un agent public de sécurité. Donc, on n'est pas encore sur quelque chose qui est numériquement aussi important que dans d'autres pays. Ça pose aussi évidemment la question des pouvoirs juridiques, ça vient d'être dit, et Antoine Garapon est beaucoup plus compétent que moi pour parler de l'aspect juridique des choses, mais il est évident que par exemple tout un tas d'exemples très concrets, le privé aujourd'hui, par exemple en termes d'interception de sécurité, n'a aucun pouvoir. Il est évidemment impensable et en fait peu concevable. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui l'opinion publique française, même dans le contexte actuel, soit ouverte sur l'idée de confier des pouvoirs de surveillance à des agences privées. De même, l'agent de sécurité privée, c'est-à-dire en gros l'agent de gardiennage qui patrouille dans les supermarchés, ça c'est quelque chose qui est apparu au cours des 30 dernières années. On a maintenant des lieux privés de masse, c'est-à-dire des centres commerciaux qui sont des lieux juridiquement parlant privés, qui appartiennent au secteur privé, mais qui accueille le public, c'est-à-dire dont l'entrée n'est pas filtrée, et dont la sécurité est assurée par des agents privés. Sauf que ces agents privés n'ont pas les mêmes pouvoirs que des policiers publics. Un agent privé, c'est-à-dire l'agent de gardiennage, il peut pas procéder à une palpation de sécurité, il ne peut pas contrôler une identité. Tout ce qu'il peut faire, là encore, c'est agir en flagrant délit. Donc de toute façon, le cadre juridique, aujourd'hui, il ne permet pas au secteur privé d'avoir vraiment un rôle dans la prévention des actes terroristes.
Si cette forme d'offre de sécurité, Mathieu Zagrodzki, n'est pas forcément ce que demande l'opinion publique, est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, il y a une demande, on constate une demande de plus en plus forte de sécurité de la part de cette opinion publique, qui est toujours un terme un petit peu
vague, un peu vague, fourre-tout, oui tout à fait. Bon, de toute façon, c'est un peu la schizophrénie de l'opinion publique. C'est que, en temps normal, je dirais, hors événement exceptionnel comme celui que nous venons de vivre, nous sommes très attachés à nos libertés publiques et n'aimons pas voir nos bagages contrôlés, voir notre identité contrôlée dans la rue, être stoppé à une frontière. Et puis quand vous avez comme hier des dizaines de morts, des personnes ultra violentes qui mettent à exécution leurs menaces, et ben tout d'un coup vous avez des demandes comme celle de Monsieur Wauquiez qui sans être véritablement audibles et soutenues peuvent rencontrer un écho au sein de l'opinion publique.
T'as de rapport ?
Oui, je crois qu'il y a un changement dans le traitement du thème de la sécurité par l'opinion publique que je ressens personnellement dans la société française, qui s'est accéléré depuis les attentats de janvier. C'est-à-dire que la sécurité était considérée jusqu'à récemment comme un thème de droite et à l'égard de laquelle la gauche était très très mal à l'aise. Et il n'y avait pas de positivation du thème de la sécurité, contrairement à ce qu'on voit en Angleterre, ce qu'on voit en Allemagne, dans beaucoup d'autres démocraties. Alors je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société française, c'est donner une sorte de dignité démocratique au débat sur la sécurité, comme n'étant pas a priori quelque chose de conservateur et de détestable, mais qui devient la condition véritable de la coexistence pacifique dans un pays. Alors je crois que ce sera, on l'a vu pour la loi sur le renseignement, et je pense que, ou du moins j'espère que ça va s'approfondir.
Et vous donnez un gage au gouvernement actuel pour avoir peut-être mené le débat dans ce sens-là ?
Tout à fait, et d'avoir mené par l'action. Alors que Chevènement, qui avait voulu le faire dans la fameuse congrès, quoi, la rencontre de Villepinte, etc., il le faisait de manière plus sur la justice de proximité, c'est un thème qui restait clivant. Là, on est dans l'action et dans un thème extrêmement fédérateur.
Montrer que c'est un thème effectivement républicain et qui est au-delà des clivages. Quoi.
Exactement.
C'est ce que la gauche essaie de faire depuis 20 ans. Le colloque de Villepinte dont vous parlez, il faut rappeler ce que c'est, on est en 1997, la gauche vient d'être élue et elle organise ce colloque pour lancer en fait officiellement la police de proximité. Au lendemain des législatives de 93, alors je ne sais plus quel institut de sondage à l'époque avait mené cette étude, mais vous aviez à peine 15% de l'électorat qui faisait confiance à la gauche pour assurer la sécurité des Français. Alors je ne sais pas quel est le chiffre aujourd'hui, je vous avoue que je serais incapable de vous le dire, je suis persuadé qu'il est
un peu... Mais il a monté.
Voilà, il est largement supérieur à ça, il n'y a aucun doute. Et il y a eu véritablement un effort de la part de gens comme Julien Drey, comme Daniel Vaillant, comme Bruno Leroux, pour bâtir une doctrine de gauche sur la sécurité, avec laquelle on peut être d'accord ou non, mais il y a véritablement un effort là-dessus.
Contraint et forcé aussi par rapport aux événements qu'on vit depuis quelques mois.
Forcément, mais ce que je constate toujours, et ce que par exemple, je dis à mes étudiants, il y a un fait extrêmement intéressant. En 1988, pendant la campagne présidentielle, il n'y a rien sur la sécurité dans le programme de François Mitterrand. 7 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, la gauche se rend compte que c'est quelque chose qui monte au sein de l'opinion publique et commence à bâtir justement cette doctrine de la police de proximité. Et aujourd'hui, c'est inévitable. C'est-à-dire que la gauche ne peut plus faire l'économie d'avoir vraiment une vision, une position sur la sécurité. Encore une fois, qu'elle soit juste ou pas.
Vanessa Codaccioni, cette appropriation beaucoup plus large des questions de sécurité qui transcende les clivages partisans désormais, est-ce que vous le constatez aussi dans les dispositifs juridiques qui sont pris, dispositifs dérogatoires qui font l'objet de votre livre ?
Bah parfaitement, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus de clivage idéologique entre la gauche gouvernementale et la droite. C'est-à-dire que c'est interchangeable et autant la gauche gouvernementale, donc le Parti socialiste, que la droite peut adopter les mêmes mesures qui vont restreindre les droits et les libertés individuelles.
Mais alors la question c'est, pardon Hervé, où est le clivage alors ? Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. Est-ce qu'il y en a un et où est-il alors ? Est-ce qu'il est entre les partis républicains et l'extrême droite par exemple ?
Pour moi, il n'y en a plus entre la gauche gouvernementale et la droite. Le droit commun n'est plus vu comme susceptible de lutter contre le terrorisme, donc il n'y en a plus. Le clivage se fera peut-être avec les extrêmes, et notamment l'extrême droite, qui peut réclamer des mesures. On a entendu des choses qu'on va entendre malheureusement encore ces jours prochains.
C'est une question qui devient moins politique qu'elle pouvait l'être, Antoine Garapon. Est-ce que, en le devenant peut-être moins, on perd aussi l'intérêt, justement, du débat ?
C'est ce qu'il faut espérer.
gérer. Et ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que dans toutes les démocraties, on a vu monter, dans les élections majeures, ce thème de la sécurité. Je vous rappelle que Dukakis a perdu l'élection présidentielle aux États-Unis sur un débat sur la sécurité. Il s'est fait piéger par une association sécuritaire. Donc, c'est un thème qui devient, dans toutes nos démocraties, c'est pas spécifiquement français. Alors, je crois que le clivage se fera entre ceux qui veulent mettre trop d'idéologie dans la sécurité, qui veulent lui faire porter finalement beaucoup plus de choses qu'elle ne peut faire, et une approche beaucoup plus pragmatique, d'efficacité, de partage avec les citoyens, avec le privé, avec beaucoup d'autres. C'est une question qui est trop importante aujourd'hui pour être strictement professionnalisée.
C'est un clivage qu'on peut aussi retrouver chez les policiers, Mathieu Zagrodzki, c'est-à-dire de différentes façons d'aborder la question de la sécurité, ou bien il y a une adhésion extrêmement large sur ce que doit être justement les missions de la police.
Ah oui. D'une façon générale, alors sans, c'est assez difficile de répondre de façon univoque à cette question parce qu'il y a des variations en fonction des pays. Au sein des pays, vous avez aussi des variations entre les corps professionnels. On a toujours tendance à voir la police comme un bloc un petit peu uniforme. Entre la police d'investigation, les CRS ou la police de voie publique, ce sont des cultures professionnelles qui sont extrêmement différentes. Il est vrai que toutes les études montrent, je veux dire, dans ce qu'on appellera le monde occidental, démocratique, libéral, que les policiers ont majoritairement plutôt une vision conservatrice du métier, c'est-à-dire focalisée sur la répression, l'interpellation, sur ce qu'on qualifiera de mission traditionnelle. Néanmoins, c'est loin d'être totalement uniforme. On trouve des profils de gens qui sont plus axés soit sur des questions de tranquillité publique, c'est-à-dire de traitement de petits délits de ce qu'on appelle les incivilités, d'autres qui sont plus portés sur le service, l'assistance aux victimes, et donc une vision un peu plus sociale et humaine du travail policier.
Il y a une question qui a été évoquée il y a quelques mois et qui revient à nouveau au devant de l'actualité. Je ne sais plus exactement quel est le syndicat qui en a parlé aujourd'hui, mais c'est cette possibilité pour les policiers de porter leur arme lorsqu'ils sont également au repos, parce que ça aurait pour effet, d'ailleurs, mathématique, d'augmenter la présence policière dans la société française. Est-ce que ça, par exemple, c'est une revendication qui est forte du côté de la police, c'est-à-dire de pouvoir exercer leur métier, quel que soit le moment de leur journée?
Pour compléter votre question, je pense que c'est le syndicat Alliance qui porte cette proposition. Et vous avez également un avocat qui s'appelle Thibaut de Montbrial, qui est assez actif sur cette proposition-là.
Mais il me semble que l'UNSA Police n'était pas totalement hostile
Je le sais pas avec certitude. Personnellement, j'ai passé un certain nombre d'heures dans des commissariats et auprès de policiers à les interviewer. Jamais ressenti cela comme étant une revendication centrale. Néanmoins, il serait intéressant de savoir quel est le positionnement des policiers aujourd'hui par rapport à cela. Généralement, le port de l'arme, il est plutôt considéré comme une charge, entre guillemets. C'est-à-dire, porter votre arme au quotidien, quand vous allez au restaurant, au supermarché, c'est une responsabilité. Vous portez quand même un objet dangereux sur vous, et le policier n'a pas forcément envie, 24 heures sur 24, d'être, vous voyez, dans la peau de quelqu'un qui doit réagir à tout moment et éventuellement tirer. Après, la proposition, mérite débat. Je suis pas forcément ultra favorable. Je ne la balaye pas non plus d'un revers de la main.
Il y a un thème qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui de la coopération, qui pourrait être celle de la population, avec notamment les forces de police. Antoine Garapon, je ne sais pas si vous avez un point de vue sur ce sujet, mais comment est-ce qu'on peut dire, enfin, il y a ce fameux slogan, vous savez, qu'on entend, je ne sais pas si on l'entend toujours d'ailleurs, la RATP,
attentif ensemble, bien sûr.
Ça veut dire quoi, être attentif ensemble?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la population, une population sensible, éduquer peut être un facteur de prévention tout à fait important. Mais c'est pas la population de tous les jours du métro qui compte. C'est la population aussi de quartiers défavorisés qui sont en contact avec les candidats au djihad. C'est-à-dire qu'il faut retrouver, ça me semble être un thème politique majeur,
une relation de confiance entre les gens en difficulté et la police. C'est pas entre le citoyen ordinaire des beaux quartiers et la police. C'est une relation de confiance, y compris dans les quartiers. Et là, on est quand même dans une situation qui, me semble-t-il, est assez dégradée.
Vanessa Codaccioni, sur cette question.
Oui, alors je vais apporter un point de vue complémentaire ou un autre point de vue en tout cas. Moi, je dirais attentif ensemble justement à toutes les dérogations aux droits, aux normes qui régissent le droit commun. Attention à ne pas empiler sans cesse des dispositions dérogatoires, d'exceptions qui vont s'appliquer, qui peuvent être généralisées, qui vont s'institutionnaliser. Parce qu'on a quand même empilé depuis le milieu des années 80 une quinzaine de législations. Et voilà.
Parce que ces dispositions dérogatoires ne disparaissent jamais. Elles s'empilent. Mais
elles s'empilent.
Mathieu Zagrodzki.
Il y a un glissement intéressant concernant justement cette coopération de la population avec la police. C'est quelque chose qui est très mis en avant dans le monde anglo-saxon. Il parle de neighborhood watch, enfin de...
Voilà, les voisins vigilants.
Les voisins vigilants, tout ça. C'est quelque chose qui est complètement entré dans les mœurs en Angleterre, aux États-Unis, qui est considéré comme normal et qui très souvent est perçu comme une forme de délation en France. Hein, parce qu'il y a toujours le souvenir traumatisant de Vichy et le fait de donner des informations à la police, c'est quelque chose qui est mal perçu. Moi, j'ai souvent ces questions-là avec mes étudiants, par exemple.
On parle assez facilement de milice hein, quand on parle...
Voilà, exactement. Il y a ce temps de milice qui revient souvent. Et on entend de plus en plus effectivement des voix dire avoir des canaux en fait d'information dans les quartiers, comme vous l'avez dit, c'est pas de la délation, c'est juste une police qui est attentive en fait aux remontées qu'elle a du terrain.
Antoine Garapon.
C'est ce que montre, moi, je trouve, et je crois que ce serait un objectif pour le débat public français. Dans le fond, je parle sous le contrôle des professionnels des sciences sociales, mais c'est qu'en réalité, ce qui marche, c'est un panaché de plusieurs mesures. Et il faut pas se focaliser sur une mesure. Il faut un peu de police de proximité, il faut une police répressive, il faut une police judiciaire, il faut du renseignement, il faut de tout. Et l'erreur, me semble-t-il, qu'on a faite en France, c'est d'avoir été trop dans une approche blanc ou noir, on se débarrasse, on met fin à la police de proximité. Exactement pareil, quand on regarde l'expérience américaine, qu'est-ce qui fait baisser la délinquance? C'est des politiques sociales, c'est des facteurs démographiques, c'est de la répression, c'est un peu tout ça.
On disait tout à l'heure, il y a besoin de bon sens et de pragmatisme. Chez les Anglais, les Américains, les politiques publiques elles sont évaluées. On mesure si c'est efficace ou pas quand on fait une réforme. On le fait pas assez en France.
Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir aidés à réfléchir dans ce moment où c'est extrêmement compliqué de le faire. Mathieu Zagrodzki, Vanessa Codaccioni, je rappelle le titre de votre livre hein, puisqu'il est vraiment tout frais, Justice d'exception aux éditions du CNRS. Merci Antoine Garapon, on vous retrouve samedi prochain pour Le Monde Selon à 17h55. Un grand merci également à Mathilde Barbier et Meta Chiteya. À la prise de son ce soir, il y avait Bruno Gagnère-Fontani. Nous reviendrons évidemment sur ces événements tout au long de ce week-end dans les différents journaux. Également, je vous donne simplement un exemple, demain soir dans Dimanche et après d'Olivia Gisbert, c'est à 18h.